Le gang des hystériques.
Le gang.
Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Je vais montrer justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité.
La plupart d'entre vous le sont.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements clandestins.
Bonjour à toutes, à tous et aux autres et bienvenue sur Le Gang des Hystéries, émission que vous pouvez écouter sur PFM et en podcast sur le site de Micro Rebelle. Aujourd'hui avec moi, il y a Lily.
Bonjour.
Il y a Olivia.
Bonjour.
Il y a Sarah.
Bonjour, bonjour.
Et notre invitée du jour, Nadine.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, une petite émission, donc c'est pour ça que Nadine est parmi nous, sur un thème qui revient de plus en plus dans les médias, surtout suite aux différents confinements qu'il y a eu et donc les difficultés qu'il y a pu y avoir. Mais avant qu'on aborde ce sujet, on va passer à l'agenda. Lily, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ?
Oui, on a quelques dates là pour ce début d'été, des propositions de rencontres. Alors d'abord le 25 juin à 18h, donc on vous propose de venir nous rencontrer à l'Assemblée Générale du Planning Familial qui aura lieu cette année à Méricourt, dans la salle Jean Villard, place Jean Jaurès, donc à partir de 18h, 18-21. Voilà, une occasion de venir rencontrer les militantes et militants puis de l'association, voir un peu ce qu'on y fait et puis échanger et réfléchir ensemble sur la condition des filles, des femmes, des garçons, des hommes et de tout le monde dans le Pas-de-Calais. Autre date, le lendemain matin, donc le 26 juin, ce qui sera donc un samedi, à partir de 10h, ce serait l'Assemblée Générale de Micro Rebelles. Ça aura lieu à la Maison des Jeunes, Buisson, à Lens, rue Léon Blum.
Tout à fait. J'ai
dû tout mettre un peu dans le mauvais ordre.
Non, c'était très bien.
Il y a toutes les informations, ouais. C'est pas grave, c'est dans le désordre, mais on a les infos.
Et ce sera suivi d'un barbecue, un bon temps d'échange convivial pour... On sait que les informations, les projets naissent dans tous ces temps off. Là, voilà, barbecue, c'est un bon format. Donc le 26 juin, Assemblée Générale de Micro Rebelles. La troisième information, le 2 juillet à 17h, oui. Le retour du bar LGBT, mais en présentiel, avec ces nouveaux mots
oui,
qu'on a
malheureusement.
Découvert depuis l'an dernier et tout. Donc on va pouvoir... se revoir en vrai, pas derrière un écran, donc à partir de 17h, dans les locaux du planning familial, donc au 45 rue François Gauthier à Lens.
C'est très bien. vous n'avez pas le visuel en même temps, mais Lily nous fait des gros yeux en mode « Est-ce que je dis pas de bêtises ?»
Et puis, dernière info, mais non des moindres, le 5 juillet, on vous convie à une veillée féministe, donc toujours dans les mêmes locaux du planning familial à Lens, donc 45 rue François Gauthier à Lens, à partir de 18h, 18h, 20h30, il me semble, donc on fait une veillée féministe, on va... ensemble, on vous convie à venir tester des jeux de plateau, mais avec des versions plus égalitaires entre les êtres humains. Karaoké féministe, blind test, voilà, une soirée de jeux revisités, on va dire comme ça, en prévision d'un projet que les membres du planning familial ont... on va dire sur le feu depuis quelques années, c'est-à-dire de parcourir notre cher territoire en camionnette éventuellement, mais voilà, d'aller à l'encontre des
habitants.
Des habitants, merci. et des habitantes du territoire pour venir échanger sur les questions voilà, d'égalité, d'émancipation, d'estime de soi, d'ambition, voilà, et via des médias ludiques, voilà, les jeux, la chanson,
Donc si vous entendez parler du bus de l'émancipation, ben c'est le petit projet qui porte son nom au sein du planning.
Du planning. Voilà, voilà. Je crois que... Est-ce que quelqu'un a une info à l'agenda de dernière minute ?
Non, on avait tout listé exprès pour rien perdre. Voilà. Merci Lily.
Pas de fulgurance là tout de suite.
Non, peut-être qu'à la fin de l'émission, on dit « Ah si, en fait, mais quoi, pour l'instant, ça ira. » Donc le thème du jour, comme je vous ai dit, c'est on en a beaucoup parlé pendant les confinements, surtout après les confinements, c'est en fait les familles monoparentales, c'est-à-dire où il n'y a qu'un seul parent qui a la charge des enfants. Et le problème, c'est que pour 8 sur 10 à peu près, c'est principalement des femmes qui sont en charge de ça. Et le planning avait déjà fait quelque chose les années précédentes. Sarah, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Alors donc merci Nadine d'être venue aujourd'hui. Donc oui, tu disais Florian, donc effectivement en fait l'INSEE même a publié des chiffres pour dire comme quoi il y aurait aujourd'hui 2 millions de familles en situation de monoparentalité et plus précisément 80% sont des femmes. Donc tout à fait, 8 sur 10 sont des femmes seules vivant avec leurs enfants. Il faut savoir que quand on parle de femmes en situation de monoparentalité, on parle de femmes élevant actuellement un ou plusieurs enfants, vivant sous le même toit que leurs enfants au moins 50% du temps, dont les enfants biologiques ou non sont à leur charge, et n'étant pas en couple marié ni cohabitant, mais pouvant vivre avec d'autres types de personnes sous le même toit. Et effectivement, donc je ne sais pas l'année exacte, mais le planning familial a été missionné avec une subvention de la DDFE afin de réaliser un...
Donc la Direction départementale aux droits des femmes et à l'égalité.
Voilà, merci. A réalisé un diagnostic qui s'intitule « Ce que les femmes nous disent et ce que nous analysons ». Et Lily et Nadine, vous avez participé à l'élaboration de ce diagnostic. Et alors peut-être vous pourriez me rappeler l'année de celui-ci.
Le travail a été fait en 2016. Il a été rendu public début 2017.
D'accord.
Il y a 4 ans.
Et oui, effectivement, on parle aujourd'hui de ce sujet parce que il y a eu le Covid, il y a eu le confinement et que ça a engrangé pas mal de difficultés supplémentaires pour ces familles-là. Et je crois qu'on a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc Nadine, donc pourquoi cette question t'intéresse particulièrement et qu'est-ce qui aujourd'hui fait que tu es venue nous parler de ça?
Et surtout qui refait surface, parce que comme tu viens de le dire, ça date de 2016, mais aujourd'hui on se pose encore des questions là-dessus. Donc,
Disons que pour ma part, cette question m'a intéressée d'abord dans un cadre professionnel où je travaillais dans l'éducation nationale. Et j'ai été surprise de voir que de plus en plus de familles étaient en fait composées de la mère et de ses enfants. Et il m'a semblé, intuitivement, de mon point de vue et du bout de ma lorgnette, que la vie de ces femmes n'était pas enviable. Ça me paraissait être extrêmement compliqué de gérer tout ce qu'elles sont à gérer. Parce que la situation économique est de plus en plus difficile, il y a de plus en plus de précarité, et parce que élever des enfants aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus compliqué qu'il y a 50 ans. Il faut faire face à des sollicitations de la société sur les enfants qui rejaillissent sur les parents. Quand on est deux à gérer les demandes des enfants à la maison, c'est quelquefois bien compliqué. Quand on est tout seul à gérer ça, c'est encore plus compliqué. Et puis, dans la société d'aujourd'hui, il y a une injonction qui est faite aux femmes à être bonnes avec toutes les casquettes qu'elles ont à endosser. Donc, il faut être des bonnes mères de famille, il faut être des bonnes citoyennes, il faut être des bonnes... des femmes épanouies en tant que femmes, dans une relation amoureuse, etc. Et je mets au défi quiconque de pouvoir assurer tout ça de façon épanouissante à un moment donné de sa vie, quoi. C'est mission impossible. Et il me semblait que la vie des femmes d'aujourd'hui n'était pas plus enviable que celle des femmes il y a 50 ans, alors qu'on entend dire...
très souvent que les femmes ont acquis des droits, que la société évolue de ce point de vue-là et que c'est plus facile d'être une femme aujourd'hui qu'à 50 ans, quoi.
Oui, et alors du coup, tu nous parles de ce constat, toi, que tu as fait durant ta période de travail. Et donc, effectivement, ça paraît très compliqué, mais quand même, par rapport au diagnostic qui a été posé, et que du coup, je n'ai pas lu en entier, mais dont j'ai lu quand même les deux tiers, ce qui m'a frappé quand même dans ce qui était dit, c'était que malgré toutes ces difficultés, puisque ce diagnostic se base sur le témoignage de 17 femmes présentes dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce sont des femmes qui témoignent de leur vie, et pour beaucoup, en fait, et ce qui est quand même analysé, c'est qu'il y a une forme d'émancipation à travers le fait d'être seule, et que... Et ça, du coup, en fait, moi, je m'en étais pas rendu compte, puisque effectivement, on parle beaucoup et très souvent dans les médias des difficultés des femmes vivant seules avec leurs enfants, le fait de pas percevoir, par exemple, les pensions alimentaires, le fait d'avoir des difficultés financières, le fait de gérer seule, etc. Mais ce que je ne voyais pas, moi, c'était la partie où, du coup, en fait, ces femmes-là avaient aussi choisi, puisqu'en tout cas dans le diagnostic, il y en a, je crois qu'elles sont 15, à avoir choisi de vivre seules, donc d'avoir refusé la présence de leur compagnon, de s'être éloignée d'eux, 15 sur 17. Et qu'en fait, elles disent après coup, moi, en fait, je me sens mieux aujourd'hui, je me sens libre, je n'ai plus de compte à rendre à qui que ce soit. Auparavant, peut-être, j'étais en fait déjà seule, même s'il y avait quelqu'un à côté, mais finalement, j'assurais déjà toutes les tâches. Et je fais ce que je veux sans avoir à discuter des questions d'éducation. Et ça, en fait, je m'en étais pas rendu compte. Et c'est vrai que du coup, il y a aussi une forme d'apprentissage à travers le fait de vivre seul. En fait, c'est une renaissance aussi un peu. Enfin, c'est ce que j'ai perçu en tout cas dans certains témoignages. Et ça, j'en avais pas du tout conscience. Et je pense que ce serait bien aussi de le dire dans cette émission. Donc effectivement, il existe des difficultés. Enfin, on peut pas renier les difficultés financières, le fait que c'est très difficile de vivre seul. Parce que autre chose fait que ces femmes sont en difficulté, c'est qu'elles ne sont pas forcément entourées. Il n'y a pas forcément de famille qui les accompagne, pas forcément d'amis, que socialement, c'est très difficile de pouvoir rencontrer des gens avec des enfants, etc. Mais en même temps, il y a aussi un apprentissage à travers un apprentissage de soi, en tout cas pour certaines, à travers le fait de vivre seule avec ses enfants. Bon, voilà.
Puis je crois que les deux constats, ils ne sont pas... Ils ne sont pas à opposer. Je pense qu'elles ont exprimé les deux constats en même temps. C'est-à-dire que oui, effectivement, vivre seule avec des enfants, ça engage soit après rupture, par exemple, un appauvrissement, on change de niveau de vie. Et c'est des difficultés de gestion. C'est aussi tout ce dont parlait Nadine. Mais... et c'est vrai que dans les témoignages qu'on avait eus, il y avait la question du couple. Hein, parce que si elles ont choisi d'être seules, ça ne s'est pas fait sans qu'il y ait vraiment rupture. C'est-à-dire qu'elles peuvent comparer la vie d'avant et après. Il y a eu rupture et si les compagnons souhaitaient peut-être revenir ou s'il y avait une possibilité de se mettre à nouveau en couple, là, il y avait le choix de ne plus se mettre en couple. Après avoir expérimenté les deux et s'être rendu compte de la capacité à prendre des décisions seules, le fait que ce ne soit pas insurmontable et le fait que finalement ça enlève des difficultés parce qu'il n'y avait pas toutes les difficultés de négociation, de désaccord sur la manière dont on va gérer les horaires et les choix d'éducation. Et ça, c'était très flagrant de dire finalement, une fois seule, on a une difficulté, notamment financière, mais on s'allège les disputes et les ambiances problématiques et conflictuelles dans la maison. Et puis l'idée que finalement, toutes les charges incombent à la même personne, alors que ça pourrait être réparti différemment.
Oui, sans compter, ça rejoint exactement ce que tu dis, mais aussi toutes les différentes charges, donc charge mentale, charge émotionnelle, charge éducative, mais je pense non seulement, parce que les charges s'étendent au conjoint, parfois à la belle-famille, il y a comme ça toute une sphère de charge mentale supplémentaire qui fait qu'effectivement, de se retrouver finalement à savoir exactement pour qui on fait les choses et ce qu'on prend en charge, par choix, même si avec les enfants, ce n'est pas forcément par choix, mais ça peut être drôlement émancipateur aussi à ce niveau-là. Et je suis d'accord avec toi dans le sens où, effectivement, ça n'empêche pas qu'il y a un appauvrissement économique parfois très, très important. Et puis aussi, une reconnaissance sociale moindre aussi, d'être femme seule avec ses enfants plutôt que d'être femme mariée ou en couple avec des enfants. Que le regard qu'on a sur ces personnes en situation de monoparentalité, le regard social, le regard change aussi beaucoup.
Et qui n'est pas favorisé par les médias, puisque moi, comme je le disais tout à l'heure, vraiment, dans les médias, on n'entend qu'un point de vue négatif, un point de vue, effectivement, très larmoyant. Exactement. Ouais. C'était le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, de victime, plutôt que de femmes qui peuvent se prendre en charge, etc. C'est compliqué, mais alors après, ce qu'il ne faut pas oublier de dire aussi, et ce qui est précisé justement, et ce qui est bien dans le diagnostic, c'est que ces témoignages-là qui ont été recueillis sont des témoignages de femmes qui peuvent parler, qui ont déjà conscientisé des choses, alors que, et il y en a pour certaines qui ont dit, il y a 2-3 ans en arrière, je n'aurais jamais pu avoir un discours, je n'aurais jamais même pu m'adresser à une association pour chercher de l'aide, parce que j'étais trop en difficulté pour le faire. Et aussi, ce qui peut être dit quand même, c'est que en fait, il y a tout un pan peut-être de femmes qui n'ont pas accès aux informations, qui sont du coup pour le coup vraiment seules et complètement seules, qui n'ont peut-être aussi parce qu'elles n'ont pas la langue, qui n'ont pas non plus peut-être le bagage culturel, enfin je sais pas, et qui du coup n'ont pas la possibilité, et c'est peut-être là que le planning peut intervenir pour aller justement chercher ces personnes-là qui sont dans une détresse très forte et qui ne voient pas de solution à leur solitude, justement. Enfin bon, je ne sais pas ce que Nadine, ce que tu en penses.
C'est-à-dire que il y a le point de vue des professionnels et des gens qui analysent la situation, et quand on réagit à l'état de pauvreté, aux conditions de logement, aux conditions d'emploi, au niveau de diplôme de ces femmes-là, parce qu'on a des chiffres qui sont tout à fait accablants là-dessus. Et j'ouvre une petite parenthèse, mais les premières statistiques, les premiers textes qu'on retrouve quand on recherche dans les archives ministérielles ou de l'INSEE datent des années 75. Autrement dit, depuis 1975, on note une augmentation des familles en situation de monoparentalité avec une grande partie des femmes, avec les enfants, et on tire la sonnette d'alarme sur les conditions de vie très compliquées de ces personnes-là, avec plein de propositions qu'on peut retrouver. En plus, avec Internet, aujourd'hui, on accède relativement facilement à tout ça. Des groupes qui ont eu à travailler là-dessus, qui ont fait des propositions aux différents ministres, etc., et qui constatent que ce qui avait été préconisé 10 ans avant, ça n'a pas été mis en place, quoi. Donc, je ferme la parenthèse, mais pour dire que ça fait longtemps que c'est un sujet qui est connu des pouvoirs publics, avec des données tout à fait chiffrées et mesurables, et que pour autant on n'a rien fait. Donc il faut quand même tirer la sonnette d'alarme là-dessus. Et le terme victime, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on y met, mais il ne faut pas forcément le réfuter. Moi je pense que victime au sens du droit dans notre pays, c'est un mot qui a un sens et qu'on peut l'utiliser pour ces femmes-là. Ceci dit, il faut leur reconnaître la capacité à se prendre en charge, à faire des propositions, déjà à savoir ce qu'elles veulent pour elles-mêmes, à être capable de l'exprimer, à être capable de faire des choix, et puis la capacité à s'organiser pour vivre comme elles l'entendent. Mais elles sont aussi victimes du système économique qui les maintient dans la précarité. Donc je pense qu'il faut jouer sur les deux tableaux. Nous, au planning, il me semble que très concrètement, là où on peut intervenir dans l'immédiat, c'est d'offrir un cadre à ces femmes qui leur permette d'agir collectivement, parce que c'est plus facile collectivement que tout seul dans son coin. Et puis, le collectif peut permettre aussi un appui pour sortir de la spirale infernale des difficultés. Ça, on peut le faire tout de suite. Changer les lois et puis changer les conditions de revenus, de logement, de diplôme de travail de ces femmes-là, on peut participer à la réalisation de propositions, à la construction de propositions, mais ça ne changera pas la vie de notre voisine du jour au lendemain. Mais je pense qu'il faut quand même agir sur les deux tableaux, quoi.
Après, moi, pardon.
Non, vas-y.
Ce que je trouve intéressant, c'est ce que tu disais, Olivia, c'était sur la notion de couple et la vision qu'on avait de l'extérieur, en tout cas de la société, qui valorisait le couple au détriment des femmes seules. Et en fait, quel est le sens derrière ça
Oui, notamment que c'est dans toutes les sphères, en fait. Quand on est en tant que parent d'élève, par exemple, en tant que parente d'élève avec ses enfants, c'est très souvent que les directions ne vont pas nous regarder de la même façon que s'il y a le père à côté, dont on sait qu'il est présent, dont on sait qu'il, même s'il est absent parce qu'il travaille, mais qu'il est présent, en tout cas, dans la cellule familiale. Il y a évidemment la difficulté de trouver un logement auprès des agences et des propriétaires qui vont nous regarder, désolé pour l'expression, mais qui vont regarder ces femmes comme des cas sociaux. Voilà, parce que une femme seule avec des enfants, ça veut dire que potentiellement elle ne saura pas se débrouiller.
Et c'est vraiment de l'ordre du stéréotype, parce que on peut changer si on fait un pas de côté et qu'on imagine du coup concrètement ce que ça peut être la vie d'une mère donc chef de famille monoparentale et qui par exemple va enchaîner aussi des emplois à temps partiel, par exemple, je pense aller, admettons, aide à domicile, sa capacité d'organisation, enfin on peut quand même louer ce fait-là, la capacité d'organisation des femmes pour gérer à la fois le placement des enfants le matin ou le soir, pour gérer la logistique de la maison, qu'on ait eu le temps de faire les courses, qu'elle ait eu le temps de faire les courses et qu'il y ait un repas de près quand les enfants sont petits, mais qu'elle puisse aussi se rendre à un travail, ou alors même si c'est de l'intérim, qu'on l'appelle, on les appelle la veille pour le lendemain, ou même si elle ne travaille pas, toute cette capacité d'organisation pour faire en sorte que les enfants... Parce qu'il y a aussi le stéréotype du fait que les enfants issus de familles monoparentales seraient plus souvent des enfants délinquants, mais il y a aussi de nombreuses études qui tendent à justifier que ce n'est pas le cas. En fait, il n'y a rien de prononcé comme ça, y compris dans les quartiers vraiment populaires. Il n'y a pas le relevé parmi la délinquance, le groupe enfant issu de familles monoparentales qui serait plus important. Donc on peut relever cette capacité-là. Et puis l'autre stéréotype, ce n'est pas effectivement toujours le cas, mais sur l'absence des pères, c'est ce que tu disais. Certes, le père peut être présent mais travaille, et donc dans le monde de l'enseignement ou dans le monde de l'accompagnement social, on sait que quand il y a une réunion, quoi que ce soit, c'est une écrasante majorité encore les mères qui viennent, même si elles sont en couple. Donc on peut facilement prendre le contre-pied de tous ces professionnels en disant non, parce que regardez finalement qui est là autour de la table, c'est aussi des mères. Moi j'y suis, en plus de me dire que personne d'autre va gérer qui que ce soit ou quoi que ce soit à la maison, mais moi je suis quand même là. Donc il y a vraiment ce potentiel à valoriser. Et puis, je trouve effectivement les collectivités territoriales, les municipalités, je pense à d'autres souches, les conseils départementaux, les régions, à interpeller sur cette question-là, sur le manque d'accompagnement. Mais quand je pense accompagnement, il ne s'agit pas nécessairement de travailleurs sociaux ou d'aide sociale, c'est pas ça. Mais on voit bien si on accepte de regarder une ville, peu importe la taille de la ville, avec une approche de genre, on voit bien que les espaces publics ne sont pas pensés pour les femmes et des fois pas pour les familles. Éventuellement, dans les villes, il va y avoir des parcs pour enfants. Alors, on pourrait faire une émission en France et comparer les parcs pour enfants en France et dans d'autres pays.
On va noter.
Autour de ces parcs, rien n'est prévu pour les adultes accompagnant les parcs et notamment les mères. Éventuellement, on a quand même un banc, quand même. C'est pas sûr qu'il y ait des arbres, par exemple. Donc là, les chaleurs arrivent. On voit bien à quelle mesure on peut vraiment avoir un lieu public pour se réunir avec les enfants. Et aucune structure autour. Et donc, il n'y a pas de lieu collectif pour se voir en dehors de lieux institutionnels où il faudrait être encadré par des associations ou des choses comme ça. Alors que finalement, moi, je pense à l'Espagne, je sais que pour y être allée, d'avoir... ça a été pour moi une bouffée d'air de me dire « Oh, génial, je peux être assis à la terrasse d'un café et boire un café long avec les copines espagnoles ou pas, tout ensemble, et on voit les enfants, parce que le parc, le petit café et la terrasse, est à côté du parc. Et tout est pensé comme ça. Chaque place publique a les terrasses autour, chaque petit... et à chaque fois qu'il y a une place publique, il y a des jeux pour enfants. Ce qui n'est pas le cas. Moi, j'habite dans une ville où il y a à peu près 10 000 habitants. Il y a un seul endroit, petit endroit, où il y a un mini toboggan. Puis des jeux mal pensés, des jeux qu'on met partout et qui ne servent à rien. Les enfants, ils y vont deux secondes. Enfin, voilà, on fait comme on a toujours fait depuis 30 ans. On ne réfléchit pas à ce que aiment les enfants. Et autour, il n'y a rien. Et donc, si je veux y aller, il n'y a rien. Et donc, on reste sur son banc. Et donc, enfin, voilà...
Puis là, tu parles de l'aspect social aussi, parce que du coup, en fait, ces mères, elles sont seules. Y a quelques témoignages qui traduisent vraiment une grande solitude et en fait, qui traduisent aussi le fait que c'est difficile de sociabiliser pour ces mères-là, parce que la présence des enfants, en fait, rend tout compliqué. Mm-hmm. Et là, en tout cas, ce qui pourrait être pensé, c'est que justement, on crée des espaces de rencontres informels où peut-être les mères pourraient se rencontrer et je ne sais pas, créer du lien pour se soutenir l'une l'autre, ou en tout cas, rencontrer d'autres personnes.
Et qui est une possibilité d'encadrement des enfants également. Combien de lieux culturels permettent à ce qu'on puisse venir avec des enfants en bas âge sans se dire, non, je ne vais pas venir parce que mon dernier, il fait du bruit, il ne sera pas capable d'écouter la réunion pendant une heure et demie, donc je ne vais pas gêner tout le monde. Et puis, on n'a pas prévu quelque chose à côté, à part pour occuper les enfants. Donc les femmes sont... Les femmes seules avec enfants sont plus souvent... On s'interdit. Enfin, moi, je sais qu'il y a plein de choses culturelles que j'aimerais faire, que je m'interdis, le temps que mes enfants ne soient pas en mesure. Alors en plus, il faut vraiment choper la fenêtre parce qu'ils sont trop petits, donc ils vont faire trop de bruit, ils vont gêner. Et puis après, ils deviennent trop grands pour avoir envie de se fader les mêmes choses que moi, j'aurais envie d'aller écouter, d'aller voir. Et finalement, il y a peu de choses d'organiser pour que les adultes et les enfants... puissent être envisagés ensemble dans un même lieu. Ça, c'est horrible, mais par exemple, j'avais pris des habitudes dans des fast-foods parce que c'est les seuls endroits où il y avait jeu et possibilité de boire un café. En France, il n'y a que ça. On me dit, là, je vais pouvoir, mes enfants vont être dans la tour où il y a tous les jeux avec d'autres enfants. Ils vont s'éclater et je ne vais pas les entendre. Enfin, si. Niveau sonore est très élevé, mais pas moi directement, ils ne vont pas me solliciter pendant au moins une heure si ce n'est plus, et pendant ce temps-là, je peux lire mon journal et boire le café. Et il n'y a que dans les fast-foods qu'on peut faire ça, sinon partout ailleurs, je peux éventuellement boire un café, mais il va falloir que je les occupe, il va falloir ceci, cela, et ce n'est pas adapté, ou éventuellement, on nous fera sentir que les enfants sont un peu pénibles, ils font un peu de bruit, il faudra intervenir.
Est-ce qu'on se fait une petite pause musicale et après on reprend? On avait parlé en off de plein de choses. Je pense que Nadine, tu as encore plein de choses à nous raconter. Donc on s'écoute celui-là avec Caricatural et on revient de suite après.
Et malgré ça tu râles, on t'assimile à ces connards et leur façade de balles. T'as du mal à avaler qu'on puisse vouloir te mettre à mal. Trop sûr de toi, tu pensais t'en sortir sans qu'on te taille. Mais ta putain l'assurance, tu la transpires. Et ouais, ça me gêne, cette vieille odeur de rance qui vient pourrir mon oxygène. J'aimerais bien que tu l'asperges d'un peu d'humilité. Ça soulagerait mes narines et tu t'en porterais pas plus mal. Putain, tu te pavanes, trop beau que ça passe inaperçu. C'est bien, t'es fier, tu t'assumes, mais là ça devient indécent. À force avec tes monologues incessants, t'assommes ton auditoire, franchement, t'as pas de scrupules, sois pas salaud. Je pense pas qu'on ait mérité ça. Là j'ai les nerfs qui craquent à voir ce que tu me prennes d'assaut. Y'a un moment où j'en peux plus, à force, tu me bouffes le crâne. Dis-toi bien que si j'ai les larmes, c'est pas que ta tirade m'a ému. Tes paroles, si je les bois pas, c'est qu'elles me foutent la gerbe. Tu peux les lisser tant que tu veux, ça passera pas la gorge. Garde les reflux de ton cerveau, faut ni se frustrer ni faire semblant, mais regarde l'un dans l'autre, ça se vaut. T'es propre sur toi, t'étales tes discours bien pensants, t'affiches tes soi-disant principes, mais ils suintent et ça se sent. De sexe et d'excès, mais au fond tout le monde sait que c'est une carapace, un masque pour ton cerveau d'ado attardé. Sans vouloir te vexer, je pouvais plus garder ça pour moi. Ça commence à me tendre, je vais pas subir tes émois. Mais sauf qu'en faut trop mettre en cause, tu ramènes tout à ta personne. Personne t'a jamais dit que tu ferais mieux de rien dire. En somme, même quand t'as l'air naïf, l'air de rien, t'es méprisant, balaye devant ta porte au lieu de me la tenir et de faire le mec galant. Allez sauvage, c'est pas toi, non non, t'es respectable, même mettre tes couilles sur la table, tu le fais proprement, t'es vraiment un gentleman. Tu tends ta main et tu partages que tu sais, tu l'étales encore une fois, même s'il y a rien de neuf. T'as les chevilles qui enflent, les mains bientôt baladeuses. Il t'en faut peu pour que tu te mettes à l'aise. Mais garde tes mains pour toi, tes propos pour toi. Et garde les reflux de ton cerveau. Faut ni se frustrer ni faire semblant, mais regarde l'un dans l'autre, ça se vaut.
Le gang des hystériques.
Le gang.
Bim.
De retour sur le gang des hystériques avec Nadine qui est militante au planning familial. On parle des familles monoparentales. Et Nadine, en off, tout à l'heure avant l'émission, tu nous parlais de ce qui t'était arrivé lors d'une formation et qu'on constatait aujourd'hui que les jeunes filles, les adolescentes en tout cas aujourd'hui, souhaiteraient plus tard, pas forcément travailler, mais plutôt rester à la maison et s'occuper des enfants, alors que des générations de femmes se sont battues pour accéder au travail et sortir de la maison. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on, entre guillemets, régresse au niveau de la pensée chez les adolescentes à vouloir rester à la maison et s'occuper des enfants?
Oui, déjà pour relativiser, préciser que c'est un sondage fait auprès d'un certain nombre d'adolescentes, un nombre suffisamment important pour que ça nous alerte, mais on peut aussi croiser des adolescentes qui ont d'autres aspirations pour la suite. Hein, donc c'est pour relativiser les choses. Mais sur cette impression de régression, moi, il me semble que on peut évoquer trois aspects. D'abord, les besoins de l'économie. On sait bien que c'est le système économique qui fait prendre les décisions et qu'aujourd'hui, l'économie capitaliste libérale a besoin de moins de personnes dans l'emploi. Et donc, il y a besoin que des gens ne soient pas sur le marché du travail. Et on peut imaginer, sans beaucoup se tromper, que les premières personnes qui vont être concernées par le retour à la maison, ce seront les femmes. On voit les choses déjà s'amorcer. Et on sait bien que les politiques publiques, elles sont décidées en fonction des besoins de l'économie. Alors, sous couvert d'acquis sociaux, sous couvert de prise en compte des besoins des personnes, certainement, il y a sans doute des dispositions prises qu'on applaudit des deux mains, mais qui, à l'échelle de l'ensemble de la société et du fonctionnement de l'économie, servent en fait le fonctionnement de l'économie. Par un exemple, on parle du revenu minimum d'existence qui a fait grand bruit dans des milieux progressistes de gauche et qui a été repris par des penseurs de droite, ce qui laisse quand même un peu pantois parce qu'on se rend compte qu'il y a des intérêts qui a priori sont complètement différents, des intérêts de classe complètement différents qui pourraient se retrouver à défendre la même disposition. Est-ce que la mise en place d'un revenu minimum d'existence ne va pas aussi contribuer au retour des femmes à la maison, par exemple? Ça se met en place dans certains pays là, à titre expérimental actuellement, notamment en Allemagne. Ce serait intéressant de voir les effets que ça a sur, sur les femmes et le marché du travail. Le deuxième élément d'explication pourrait se trouver, me semble-t-il, dans l'image qu'ont les jeunes filles aujourd'hui de justement la vie de leur mère ou de leur grand-mère qui ont eu accès au monde du travail, qui pour beaucoup d'entre elles ont des conditions de travail complètement insupportables, avec des horaires décalés, avec des salaires insuffisants. Et on peut se demander si cette vie que les femmes avaient souhaité de leur vœu en fait, ne les a pas amenées juste à être à égalité des hommes dans l'exploitation, finalement. Hein, elles pensaient devenir l'égale des hommes, et ben elles le sont, mais dans l'exploitation, parce que le système y a trouvé un intérêt, quoi. Et donc, est-ce que c'est pas tout simplement parce que la vie de leur mère n'est pas suffisamment désirable pour que ces jeunes, ces ados, elles se projettent dans le même type de vie, quoi.
Et tu disais aussi que, en plus d'atteindre l'exploitation que les hommes ont dans le travail, elles gardaient la charge familiale de s'occuper de la maison en plus.
Ah bah c'est sûr.
Elles n'ont pas été déchargées de ça.
C'est sûr.
C'est-à-dire qu'il y a le poids du travail plus le poids de la maison qui reste à faire tourner parce que l'homme n'a pas pris cette partie-là.
Ça, c'était un acquis des femmes qui correspondait à une utopie mais qui leur est revenu comme un boomerang avec tous les effets négatifs que je pense qu'elles n'avaient pas imaginé à l'époque, quoi. Ouais. Et le troisième point d'interrogation que ça pose, qui est d'une autre nature, c'est la conception qui se développe de ce que doit être l'éducation des enfants aujourd'hui, où on a vu beaucoup de choses dites depuis Françoise Dolto, hein, qui n'a pas toujours été comprise comme elle l'imaginait, et où... avec l'objectif de préserver les enfants de tout ce qui serait contraire à leur intérêt, de les élever dans un cadre dont l'objectif serait de favoriser leur épanouissement personnel, etc., on n'a pas tendance à devenir allergique au mode d'éducation collective. Hein, en interrogeant les parents autour de moi sur la fréquentation des centres de vacances, voire même des centres de loisirs, je me rends compte que c'est quelque chose qui ne soulève plus l'enthousiasme comme il y a 40 ou 50 ans. Et ça amène certaines familles à se replier sur elles-mêmes pour élever elles-mêmes leurs enfants, pour les préserver des structures collectives. Et je mets ma main à couper que dans la majorité des cas où c'est le choix que les parents font, la personne qui s'y colle dans le couple, c'est la mère de famille, quoi.
Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que justement, dans ces structures collectives, comme les centres de loisirs, etc., pour avoir moi-même été animatrice dans ces centres-là, c'est vrai qu'il n'y a aucun moyen... Pour ma part, je n'ai pas été... Enfin, ma formation pour animer, elle était nulle, quoi, franchement. Donc, du coup, effectivement, ça ne donne pas forcément envie de mettre ses enfants dans des structures qui ne sont pas, en fait, suffisamment développées ou qui apportent suffisamment, enfin, bon, je ne sais pas, de sécurité, de confort, enfin... Voilà, qui ne donnent pas forcément envie aux familles de poser leurs enfants dans des centres comme ça, quoi. En tout cas, les moyens ne sont pas donnés à ces centres-là, c'est clairement, ça c'est sûr. Voilà, ça, c'était juste pour préciser ça.
Oui, c'est aussi une réalité qui existait déjà il y a 50 ans, quand les centres de vacances ou les centres de loisirs avaient le vent en poupe. Mais la bataille à mener à l'époque, qui avait commencé... sur ce terrain-là, c'était d'améliorer la qualité d'accueil des enfants, d'améliorer la formation des encadrants. Il y a eu une bataille de menée, par exemple, par des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire avec les mairies qui, dans les structures municipales, voulaient faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire organiser l'accueil collectif des enfants et offrir du boulot aux jeunes de la ville qui étaient en précarité, qui galéraient, qui n'en avaient pas, etc. Mais ce n'étaient pas forcément les personnes les mieux à même pour encadrer les enfants de façon enrichissante. Et donc, il y a eu une bagarre de menée il y a une trentaine d'années là-dessus pour... plus professionnaliser la fonction d'animateur. Et il y a eu des évolutions là-dessus. Mais je pense que dans le même temps, la société, en termes de mentalité, elle évolue et qu'il y a une désaffection des structures collectives plutôt que de se battre pour les modifier de façon positive. Quoi.
Ouais, puis de toute façon, c'est très dévalorisé. Enfin, ces métiers-là d'animateur, toutes les personnes qui vont s'occuper des enfants en dehors des... Puis même, de toute façon, les professeurs sont pas très bien valorisées non plus, mais toutes ces personnes qui vont faire le temps périscolaire, elles sont vraiment vues vraiment comme des moins que rien. Et puis s'occuper des enfants sur les temps périscolaires, je pense que oui, c'est pour les petits boulots, quoi. C'est pas valorisé du tout.
D'une part, et d'autre part, c'est encore une fois des horaires qui sont dévolus, ben, pour les mères notamment qui travaillent. C'est des horaires qui sont tout simplement pas à leur portée parce qu'elles ont déjà la charge de leurs propres enfants. Et puis c'est aussi pour rappeler que c'est horriblement mal payé.
Oui, bah,
hyper
oui,
précaire.
Oui.
Et puis c'est pas pensé comme étant un tremplin pour quoi que ce soit. C'est-à-dire on voit le rapport qu'il y a entre les élus, de peu importe les municipalités et toutes ces agentes. Ça se dit pas vraiment, mais c'est enfin si peut-être agente, ça se dit.
On va dire que ça se dit.
On le dira. Parce que autour tout ce qui est périscolaire, mais aussi les repas et tout, on sait que c'est surtout des femmes et qu'en fait c'est pensé. On s'est dit enfant. Ah, enfant, bon, bah, femme. Bon, et puis, on va embaucher des gens, les femmes de la ville et tout. Mais du coup, on se dit, c'est un peu comme une espèce de clientélisme. Et puis, pour voir du travail à des femmes qui n'auraient pas de diplôme, qui seraient effectivement, comme tu disais, en difficulté et tout. Et donc, hop, on les place là. Et on ne pense pas l'accompagnement des enfants comme étant une espèce de priorité, comme tous ces temps, les temps où, dès le matin, ils arrivent à l'école et ils quittent après la garderie ou autre, comme étant entièrement des temps dédiés à la pédagogie, et y compris le repas, qui devrait être dans le cadre de l'écologie, de l'économie sociale et solidaire, qui devrait être pensé comme un moment de pédagogie. Et on a des tas de violences qui continuent d'être perpétrées. Et du coup, oui, effectivement, des familles qui désaffectent en fait, ces services-là, parce qu'on n'a pas pensé... Et ce n'est pas pour jeter l'opprobre sur du coup, ces femmes qui travaillent là-dedans, mais pour se dire en fait, on ne leur a pas non plus donné les moyens de s'épanouir dans ce travail-là et de faire un travail enrichissant pour toute la collectivité et tout, parce qu'on l'a pensé comme un travail de relégation, sous-payé, fractionné, hein, un petit peu le matin, un petit peu le midi, un petit peu le soir. Et donc, effectivement, on, en tant que mère célibataire, on n'imagine pas laisser du coup les enfants, parce que c'est pas parce qu'on est seul qu'on doit dire qu'on doit mal faire ou se contenter de, entre guillemets, de ce qu'on a pour les enfants. On sait bien que du coup, l'enfance et donc la condition des femmes n'est pas pensée par les pouvoirs publics comme étant quelque chose d'émancipateur. Mmh. Ce qui est dommage, parce que si on revient, moi je voulais revenir sur le fait qu'il y aurait plus de jeunes filles qui s'imaginent au sortir de l'école mère. Je voulais faire deux points là-dessus. C'est d'abord, c'est pas grave. Enfin, en planning, on milite pour le libre choix. Et que si l'épanouissement peut passer par la maternité, eh ben, qu'elle le fasse. Et qu'en fait, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, on n'est pas mère, mais on n'est pas que mère. On peut devenir mère, mais on reste une femme. Du coup, si on a envie un jour d'être à nouveau salarié ou entrepreneur ou quelque chose comme ça, on peut. Certes, les quelques années de petite enfance, notamment, sont plus compliquées, mais il faut pouvoir se redire que ça ne dure qu'un temps et qu'il est donc envisageable de laisser accès à ces femmes à la formation, par exemple, professionnelle, même si elles ont 2-3 enfants ou plus, seules ou pas seules. Parce que moi, dans mes expériences professionnelles, j'ai entendu trop souvent des acteurs et actrices de l'action sociale se dire « Bon, ben oui, Madame Intel, elle a demandé une formation. Bah oui, mais enfin, elle a déjà 3 enfants. Comment elle va faire et tout ?» Non, parce que par contre, on a monsieur nanana, lui, il serait peut-être mieux placé. Et donc, la dame qui a plusieurs enfants et tout, on ne l'envisage pas de manière institutionnelle. On n'envisage pas qu'elle puisse reprendre une formation, reprendre des études parce qu'elle a des enfants. Alors que finalement, si on a ses enfants entre 18 et 25 ans, ce qui est jugé comme trop tôt par la société. Moi, je ne porte pas de regard là-dessus. Je, chacun son choix, mais finalement, si on les a eus à 18 ans, bah à 25 ans, ils ont déjà 7 ans, on a déjà une plus grande latitude dans leur autonomie, l'autonomie des enfants, donc on peut reprendre une formation. Et à 25 ans, enfin, je veux dire, rien n'est trop tard, enfin, c'est clairement un début de vie, quoi. Donc on pourrait... ne pas, si on n'avait pas ce cliché négatif, c'est ce qu'on disait au début, sur les femmes seules, on pourrait imaginer de se dire, ben, oui, certes, super, vous avez fait vos enfants maintenant, génial, est-ce que ça vous a plu? Oui, bon, ben, super, hop, on fait autre chose, ça vous a pas plu? Ben, venez, on en parle. Et puis, voilà, parce que je pense qu'elle traverse ça, on va traverser la maternité, on va traverser l'éducation des enfants, et donc on va acquérir un nombre incroyable de compétences, de gestion, de surveillance, de pédagogie, d'adapter son vocabulaire, d'adapter son discours, de sécurité. Enfin, on est en mesure de faire des tas de choses et on a acquis, on a mûri du coup 18 à 25 et à 25 ans, on est peut-être plus en mesure pour certains d'entre nous d'embrasser une nouvelle formation, une nouvelle idée de ce que peut être notre vie plutôt qu'à 16 ou 18 ans. Enfin, je veux dire, on va jeter la pierre à personne que évidemment ce qu'on pensait être de soi-même à 16-18 ans change à 25 ans. On le sait, mais on n'est pas obligé de les enfermer. Tandis que là, c'est vraiment quelque chose d'enfermant. Et j'ai oublié la deuxième chose que je voulais dire.
Donc on en revient aux conditions matérielles qui sont faites pour que les femmes puissent faire les choix qu'elles souhaitent faire et s'épanouir dans le cadre de ces choix. Il faut avancer sur tous ces aspects-là, quoi, sur la question du logement, sur la question de la formation...
Et les modes de garde et les possibilités, que ce soit en milieu urbain ou rural, des élus, trop souvent, où on entend quand on leur fait des propositions de crèches collectives notamment, dont on sait la plus-value que ça peut avoir chez les enfants, d'être dès le plus jeune âge en encadrement collectif, des élus répondent que oh, bah non, les enfants, c'est les mères qui s'en occupent. Et donc, paf, dans les trois quarts des villages de France, il n'y a pas de mode de garde, ou c'est des modes de garde chez des nounous qui peuvent des fois être trop... Il n'y a pas assez de propositions de garde, et des fois, ça peut être trop cher, effectivement. Encore qu'on est quand même dans un pays, je pense, à comparer avec l'Italie, par exemple, où il n'y a aucune politique... Il n'y a pas de politique nataliste, comme on est quand même en France. Il faut quand même prendre conscience de des politiques sociétales derrière. Il y a une prise en charge pour... j'ai pas les plafonds, par exemple, mais il y a une possibilité qui est méconnue dans les milieux populaires de pouvoir, pour un tarif vraiment exceptionnel, mettre les enfants dans les crèches collectives. Moi, je sais qu'en étant sous le seuil de pauvreté avec mes deux enfants, mon dernier a pu avoir accès à la crèche collective pour une cinquantaine d'euros tous les mois et demi. Alors, il faut déjà toujours pouvoir les mettre, mais c'est hors compétition et ça lui a ouvert un champ. Mon enfant, je l'ai vu évoluer parce qu'il y a d'autres enfants, il y a des professionnels formés pour le coup, un travail sur la motricité, et c'était un soulagement pour moi de le savoir là, et ça m'a permis de développer, de faire des tas d'autres choses effectivement à côté. Et ça, les crèches privées essayent de le faire savoir qu'elles sont confrontées à la désaffection des milieux populaires avec ce stéréotype de se dire c'est trop cher. Après, elles sont trop peu nombreuses.
Alors, il nous reste très peu de temps pour finir l'émission. Nadine, tu nous as parlé tout à l'heure d'un collectif de femmes qui voulait aussi affirmer des choses, qui voulait justement, on fait quoi maintenant à partir de ce constat ? Le planning propose un soutien, des actions sont menées. D'ailleurs, on parlera d'une action qui sera proposée cet été auprès des femmes en situation de monoparentalité, puisque une sortie sera organisée le 3 août prochain, au départ de Lens pour Boulogne-sur-Mer, toute une journée. Mais est-ce que tu peux nous parler du coup de ces femmes qui se sont battues peut-être pour certains droits ?
Oui, donc ce sont des femmes organisées en association, des femmes en situation de famille monoparentale qui ont porté à l'Assemblée nationale en février 2019 des propositions d'action pour transformer la vie de ces femmes, parce que c'était... à l'ordre du jour du débat de l'Assemblée nationale, cette question-là. Et c'est intéressant de voir que les propositions dont elles étaient porteuses rejoint celles que le planning fait à la fin du diagnostic qu'on évoquait tout à l'heure, à la différence près qu'au planning, on a le souci de la mise en place d'actions collectives, de choses collectives, de permettre aux femmes d'agir collectivement, de se rencontrer, de s'organiser collectivement. Alors que les propositions qui ont été faites à l'Assemblée nationale par ce groupe de femmes relevaient plus d'amélioration des conditions de matériel de la mère de famille avec ses enfants, qui sont extrêmement importantes et qui, produites par elles, montrent bien en quoi ça a de l'importance pour leur quotidien. Donc, elles revendiquaient, par exemple, le statut les mêmes droits pour les familles monoparentales que pour les familles nombreuses. Par exemple, pour les déplacements, pour la mobilité, qu'on puisse avoir une carte famille monoparentale comme il existe des cartes famille nombreuses. Elles demandaient un autre accès au logement. On sait que sur les questions de logement, c'est un gros problème pour les mères qui se retrouvent avec leurs gamins. Hein. 23% des familles monoparentales sont dans des logements surpeuplés. Ce sont des statistiques qui sont faites avec des règles d'études et notamment des repères de définition qui sont scientifiques. 23% des familles monoparentales pour 10% des familles vivant en couple normalement. On sait que c'est quelque chose d'important et ça, c'était une de leurs revendications en 2019. Je ne vous dis pas, après le Covid de l'année dernière, ce que ça a donné. Hein. Le printemps 2020 pour ces femmes-là a été très très compliqué. Elles réclament troisièmement une aide pour faire garder les enfants au-delà de 6 ans et pas seulement jusqu'à 6 ans. Elles demandent des horaires décalés dans les crèches. Ici, sur le secteur, Lily évoquait les crèches privées. Elles font venir des familles populaires parce qu'elles ont des horaires décalés et que la majeure partie des femmes en situation de monoparentalité sont inactives, hein, c'est 40% des femmes. Mais 33% travaillent à temps partiel et c'est tous les boulots avec des horaires atypiques. C'est aller faire le ménage dans les bureaux, c'est l'assistance aux personnes âgées, etc. Et elles réclament des horaires décalés dans les crèches. Et la crèche privée de Liévin qui fait ça, avec une amplitude presque de 20 heures dans la journée, elle attire des personnes qui laissent les trois quarts de leur salaire, quoi. Elle demande aussi le recouvrement des pensions alimentaires. On sait que 30 à 40% des pensions alimentaires ne sont pas totalement payées, quoi. Et puis, elle demande la simplification des démarches pour les aides existantes. Hein, parce qu'il faut plus d'aide, mais il faut aussi qu'elles connaissent les aides et que les démarches à faire pour les avoir soient simplifiées. Aujourd'hui, 30 à 40% des aides prévues ne sont pas utilisées. Il y a 30 à 40% de non-recours. C'est quand même incroyable quand on sait comment ces femmes vivent dans la précarité. Donc ça, c'est ce groupe de femmes qui a porté ça. Je pense qu'il faut appuyer ces demandes. Et puis, nous, on a fait des propositions à la fin du diagnostic qui recroisent ça. Donc, je ne vais pas, tout redétailler. Mais nous, on insiste sur le fait de favoriser des échanges entre les femmes qui sont porteuses d'initiatives et les institutions, par exemple la CAF, etc., pour qu'elles puissent être appuyées dans leurs initiatives. Et on insiste pour qu'il y ait des excursions, enfin des moments comme par exemple ce qu'on appelle des excursions d'émancipation, où on prendrait en charge la garde des enfants pour qu'elles puissent partir la journée ou plusieurs jours, et puis des actions culturelles collectives où on assurerait aussi la garde des enfants, quoi.
Et donc, justement, par rapport à ça, donc pour redire, le planning propose une journée le 3 août prochain. Si vous souhaitez, si vous êtes intéressé justement et que vous nous écoutez, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Il y a une journée le 2 juillet prochain. Il faudra s'inscrire au planning, donc se déplacer à Lens, aller au planning familial de Lens, donc 45 rue François Gauthier. Et là, du coup, dans le nombre de places disponibles, il y aura un certain nombre de places. Vous pourrez vous inscrire avec vos enfants et ce sera justement le lieu idéal pour rencontrer d'autres personnes. Passer un bon moment et puis...
Il y a quoi de prévu pour la... Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une petite sortie spéciale ce jour-là.
Qu'est-ce que vous allez faire à Boulogne?
Alors, du coup, on va aller sur la plage, bien sûr. Il y aura un pique-nique et il y aura une sortie aussi à Nausicaa, qui sera donc... c'est une journée qui sera offerte pour ces femmes, puisqu'on sait qu'elles n'ont pas forcément les moyens. Donc, tout est pris en charge. Vous n'avez qu'à vous inscrire au planning familial et à vous déplacer jusqu'au local. Donc voilà.
Inscription le 2 juillet, voyage le 3 août.
Voilà. Est-ce qu'on a des choses à rajouter?
Ben, comme vous voulez, il reste encore 3 minutes.
Olivia, peut-être tu avais des choses à dire
Est-ce que quelque chose à dire sur ça, ou est-ce que tu veux nous parler rapidement du petit bouquin avant qu'on clôture là-dessus? Ou ouais. Lily, tu voulais...
Ouais, peut-être.
Bah, sur l'encadrement, non seulement ouais. On prévoit la sortie, mais c'est pas juste... C'est pas juste une sortie, on va pas juste véhiculer des femmes et des enfants jusqu'à Boulogne et tout. C'est on prévoit que ce soit une rencontre entre nous toutes et que l'encadrement des enfants soit prévu tout ensemble et qu'il y ait des échanges et que on puisse échanger sur nos conditions de femmes chefs de famille monoparentales et puis et créer de la sororité autour de ça, en plus de passer un moment ludique et agréable de détente sur la plage et puis à Nausicaa. Mais c'est voilà, ça va au-delà d'une sortie.
Bien sûr,
oui. Nadine, tu m'arrêtes, mais
non, tout à fait. C'est-à-dire qu'on veut offrir à ces femmes un cadre qui leur permet de réagir collectivement, tout en reconnaissant à celles qui seraient parce qu'on sait que quand on est complètement au fond du trou, on n'est pas forcément dans les meilleures dispositions pour réagir et prendre en main sa destinée. Et donc, on reconnaîtra aussi à celles qui en auront besoin le droit de se laisser porter une journée par l'organisation collective sans chercher plus que ça ce jour-là lors de la sortie. Quoi. Autrement dit, on offre le cadre et après, chacun s'en empare comme il le souhaite.
Oui, et du coup, en fait, en concluant sur cette sortie, on peut aussi se dire que bah, y a aussi beaucoup de positifs, il y a beaucoup de dynamisme, d'énergie. Enfin, voilà, on combat.
On peut peut-être finir sur un petit sondage Ipsos. Donc, ce n'est pas le planning familial, c'est Ipsos. Toutes les femmes en situation de monoparentalité qui ont été rencontrées dans le cadre de ce sondage pensent qu'elles sont de bonnes mères. 76% d'entre elles pensent que leurs enfants s'en sortiront aussi bien ou mieux que les enfants des familles élevées par leurs deux parents. Et toutes ces femmes pensent qu'elles transmettent des valeurs positives à leurs enfants.
Comme quoi le tableau n'est pas tout noir. Elles pensent quand même du bien de ce qu'elles font. C'est que ce que tu disais, Sarah, au début, c'est qu'on a tendance à partir dans le côté négatif, mais qu'en fait, il y a beaucoup de positif dans ces familles monoparentales au final.
Et en ce moment, on en a besoin quand même. Hein.
Oui, il y a besoin quand même de beauté dans ce monde, effectivement. De toute façon, lors de la sortie, il y aura Touga, que vous avez déjà entendu, qui fera partie de la sortie également. Et on en entendra parler de nouveau, puisqu'elle souhaite faire un petit reportage là-dessus. Donc, on aura l'occasion peut-être à la rentrée de rediscuter de tout ça, en tout cas. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Lily, merci Olivia, merci Sarah et merci Nadine d'être venue pour nous parler de tout ça. Et on se dit au mois prochain pour une émission spéciale été.
Merci à toi, Flo.
Merci Florian.
Merci. Florian.
Et donc on se dit au mois prochain.
Salut, salut.
Salut.
Au revoir.
Le gang des histoires.
Le gang.